Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans le 13-14 de France Inter, à la une aujourd'hui. Un été douché, les intempéries continuent et s'aggravent. 11 départements français en vigilance orange. En Allemagne, les pluies diluviennes ont fait 19 morts. Nous serons sur place, nous serons aussi en Lorraine, où par endroits, il est tombé autant de pluie en une journée que d'habitude en un mois. La quatrième vague de la Covid est elle aussi en train de déferler sur la France, doublement des contaminations quotidiennes en une semaine. Nous poserons nos questions à l'épidémiologiste Antoine Flao, notre invité à 13h30. Appelez-nous 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Pour les effets secondaires économiques, le pass sanitaire est-il la réponse? Mode d'emploi de ce pass et de l'appli dans ce journal. On entendra aussi les questions des commerçants sur son extension. Le vrai problème pour la reprise n'est pas là, dit le président de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.
À vrai dire, la principale menace sur la reprise nous semble être les difficultés de recrutement des entreprises.
Problème de recrutement et crise sanitaire, on en parle avec l'invité du journal, directeur général de l'agence d'intérim à Randstad. Emmanuel Macron va se rappeler ses étés passés dans les Pyrénées. Le président est sur le Tour de France cet après-midi. Belle étape de montagne, marquée ce matin par la perquisition des chambres de l'équipe du Bahreïn. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête. Dans ce journal encore, direction le Japon, où ces Jeux Olympiques en plein Covid continuent décidément d'inquiéter. Et puis le Festival de Cannes nous fait voyager d'Haïti à Paris en passant par la Russie, l'Iran, le Maroc, la Bulgarie pour finir en chanson avec Niagara, je dois m'en aller, mais pour l'instant restez, c'est le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Mais que se passe-t-il dans le ciel de juillet? Des pluies diluviennes se sont abattues en pleine nuit en Allemagne. Des rivières qui sortent de leur lit, des rues transformées en torrents, des maisons qui s'effondrent. Intempéries impressionnantes dans l'ouest du pays. Impressionnantes et fatales. 19 morts au moins et des dizaines de disparus. On retrouve notre correspondante sur place. Bonjour Nathalie Versieux.
Bonjour.
La chancelière se dit bouleversée par la gravité de la situation.
Oui, effectivement. Il faut voir que ce n'est que ce matin que l'étendue de la catastrophe est apparue au grand jour. La Rhénanie-Palatinat est en partie sinistrée. Nous luttons toujours désespérément pour sauver des vies, explique la ministre-présidente de la région, la social-démocrate Malou Dreyer. La défaillance du réseau de téléphone mobile complique la tâche des secouristes. Les ruptures de courant qui affectent 200 000 personnes menacent également le réseau d'eau potable qui n'est plus assuré que pour quelques jours seulement. Dans la région, il est tombé 148 litres d'eau au mètre carré ces dernières heures. Partout, ce sont les mêmes scènes de désolation, comme à Schuld, où plusieurs maisons se sont écroulées sous la pression des eaux. À Leverkusen, un hôpital a dû être évacué avec 468 personnes. 1500 habitants d'une vallée rhénoise ont dû, eux aussi, quitter leur logement. De nombreux morts ont été retrouvés noyés dans leurs caves. La pluie s'est calmée dans la région, mais de nouveaux orages sont attendus ce soir, plus au sud.
À Berlin pour France Inter, Nathalie Versieux. Les inondations ont aussi coûté la vie à deux personnes en Belgique et les pluies ne s'arrêtent pas à la frontière. Chez nous, 11 départements en vigilance orange dans le Grand Est. Le détail avec Météo France à la fin de ce journal. L'équivalent d'un mois de pluie s'est abattu ou peut encore s'abattre dans ces zones avec à la clé évacuation de bâtiments, pompiers à la rescousse et transports perturbés, particulièrement en Meurthe-et-Moselle. 3 communes inondées dont celle de Longuyon, mais là-bas l'heure est à la décrue, estime Arnaud Cochet, le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Ce sont depuis hier soir 450 interventions qui ont eu lieu sur l'ensemble du département. Une soixantaine sont encore en cours et on attend bien évidemment la complète décrue ici pour pouvoir épuiser les caves, aider les personnes qui ont leurs habitations qui est inondée. Comme vous les avez pu le constater, certaines rues de la ville sont encore très, très fortement inondées avec des véhicules qui sont inaccessibles. La situation est en très nette amélioration par rapport à ce qui a pu être enregistré à 7h du matin. Évidemment, dans les points bas de la ville, c'est évidemment toujours spectaculaire et les réseaux d'évacuation sont extrêmement chargés. Donc il faut qu'ils puissent se vider complètement pour qu'on puisse aussi procéder à l'épuisement des caves et au pompage de tous les lieux qui sont encore sous l'eau.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet, avec Magali Fichter de France Bleu Lorraine Nord. Des intempéries encore aujourd'hui dans l'Est, ça s'arrange sur l'Ouest de la France. Le détail donc un peu avant 13h30. Notre été chamboulé, chapitre 2, intempéries pour l'instant et le retour de la Covid à l'horizon. Doublement des contaminations quotidiennes en une semaine. Le variant Delta nous fait atteindre les 8800 nouveaux cas par jour. Pour le contrer, vous le savez, le pass sanitaire, preuve de vaccination ou de test négatif, va être étendu dès la semaine prochaine aux lieux de loisirs, puis au 1er août pour les majeurs, aux restaurants, transports et centres commerciaux. Pass obligatoire pour les clients et les salariés, d'où le déplacement ce matin de la ministre du Travail au centre commercial des Quatre Temps à la Défense dans les Hauts-de-Seine. Elisabeth Borne venait parler piqûre pour les employés. Les commerçants lui ont répondu inquiétude pour l'application du pass aux clients et les contrôles. Olivier Delamar, directeur du réseau des centres commerciaux français du groupe Unibail Rodemco Westfield, se demande où vérifier le sésame. Réponse de la ministre hésitante.
En fait, je pense qu'ils seront faits en amont du centre. C'est pas tranché ce point, puisque parmi vos représentants, certains sont pour un contrôle à l'entrée dans le centre, d'autres sont pour un contrôle à l'entrée dans la boutique.
La problématique qu'il y a, c'est les boutiques essentielles. Le contrôle à l'entrée du centre de tous les gens et ceux qui ont le droit de rentrer sans passe pour aller dans les boutiques essentielles. Comment on organise deux files, comment voilà, on trie, etc.
Beaucoup d'échanges avec vos secteurs et donc le Premier ministre annoncera ses décisions prochainement.
Oui, je pense que,
on a calculé la queue, on imagine un mètre et demi d'espacement entre les personnes et en une seule queue, après il y aura des serpentins. Et on arrive chaque jour à 27 km de queue. Le chiffre est impressionnant. Après, dans ces contrôles-là, il y a des gens qui vont dire « moi, je vais à la pharmacie ». On ne pourra pas lui dire « monsieur, vous voulez des médicaments, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez peut-être pas sanitaire ». Donc, on a un peu travaillé la chose.
Moi, j'entends ce que vous dites. Il faut qu'on ait des décisions et des modalités de mise en œuvre qui soient pragmatiques.
Olivier Delamar qui demande au gouvernement de repousser le calendrier jusqu'au 15 septembre et de pouvoir se contenter de contrôles aléatoires. Il était au micro France Inter d'Hélène Philly. Covid et effets secondaires économiques. Le ministre des Finances annonce 10 milliards 800 millions d'euros de dépenses publiques supplémentaires pour l'an prochain. Selon Bruno Le Maire, la croissance économique meilleure que prévue devrait permettre de limiter le déficit cette année à 9% du produit intérieur brut. Voilà pour le quoi qu'il en coûte. Politique de soutien du gouvernement à l'économie et sa sortie progressive. Mais la véritable menace n'est pas là, estime ce matin le président de la Banque de France. Elle n'est pas non plus dans le pass sanitaire, non. Le risque pour la croissance, ce sont les difficultés de recrutement des entreprises, selon François Villeroy de Galhau. En première ligne pour les aider, ces entreprises, les agences d'intérim comme Randstad. Avec nous, son directeur général, Gaëtan Defraine. Bonjour.
Bonjour Marion.
Cette difficulté de recrutement des entreprises, vous la ressentez aujourd'hui ?
Ah oui, et on la constate chaque jour sur le terrain. Bon, même si quand on parle de difficulté de produire pour les entreprises aujourd'hui, je dirais que sur le très très court terme, on est encore sur le manque de composants. On est d'accord avec la Banque de France, c'est plus tellement le Covid qui pénalise, mais à très court terme, c'est le manque de composants, avec notamment l'électronique dans l'automobile ou d'autres matières premières dans le BTP. Mais c'est vrai que de plus en plus, on constate des difficultés de recrutement, et ce, dans tous les secteurs d'activité, tous les secteurs géographiques. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce métier, j'ai jamais connu ça.
Vous sauriez le chiffrer ?
Alors, à notre niveau, rien qu'au niveau de Randstad, nous avons travaillé une petite centaine de milliers de personnes tous les jours, et on a près de 10 000 postes ouverts. Hein, donc c'est déjà énorme. Et ce qui est très très paradoxal, j'en discutais avec des collègues à l'international encore récemment, c'est qu'ils nous disent, Gaëtan, parce que cette crise finalement c'est dans le monde entier. Hein, le monde entier est face à des difficultés de recrutement, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a nous en France un taux de chômage de 8% environ, comme vous le savez. Quand on est aux Pays-Bas et qu'on a
cet exemple-là. Comment l'explique Gaëtan Defraine ?
Il y a plusieurs éléments. On sait qu'on doit travailler sur la formation. On a une inadéquation entre les postes demandés aujourd'hui et la formation. Alors, le gouvernement investit énormément d'argent. On sait qu'il y a une réforme de la formation qui est en cours. Elle va porter ses fruits. Toutes les entreprises et nous-mêmes chez Randstad, nous investissons dans la formation. C'est important. Je vais vous donner un exemple. Dans les Hauts-de-France, nous avons décidé de recruter 200 personnes sur des métiers liés à l'industrie et à la logistique, tels que conducteur de ligne, soudeur, cariste. Et on va former des demandeurs d'emploi sur des formations qui vont aller de 175 à 400 heures, donc on se parle quand même de 3 mois de formation, et pour les mettre en travail. Donc il y a un gros investissement.
On comprend bien le problème de formation. Est-ce qu'il y a aussi une question de travail pas assez incitatif ? Ça, c'est ce que dit le directeur de la Banque de France.
C'est vrai.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, ça veut dire, je vais vous donner un exemple tout simple. J'étais en discussion avec un travailleur intérimaire qui exerce le métier de cariste dans la logistique. Et il me dit, Gaëtan, pourquoi j'irais travailler à 10,50€ de l'heure alors que je vais toucher la même chose au chômage? Là, je suis sur une question un peu épineuse, mais c'est quand même la réalité de ce qu'on entend tous les jours.
Gaëtan Defraine, directeur général de l'agence d'intérim Randstad, merci d'avoir répondu à France Inter. Pour eux, le problème, ce n'est pas le recrutement, mais la contrainte que représente le pass sanitaire. 19 000 manifestants dans plusieurs villes de France hier pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dictature sanitaire, un réveil des anti-vaccins qui inspire certains politiques. Bonjour Yael Gauz.
Bonjour Marion.
Florian Philippot, par exemple, ex numéro 2 du Front National, saisit le moment pour annoncer sa candidature à la présidentielle.
Oui, l'ex-bras droit de Marine Le Pen à la tête de son mouvement Les Patriotes, des ronds-points aux anti-vaccins. Le mot d'ordre, c'est, je cite, « résistance ».
Lundi, il avait toutes les allures d'un dictateur et d'un tyran. Enfin, il est venu annoncer devant les Français que s'il se vaccinait pas dans les jours, les semaines qui viennent, il pourrait être viré, ce qui est d'une violence absolument inouïe. Ça s'appelle une tyrannie. Ma candidature sera claire, le rétablissement intégral de nos libertés qui sont aujourd'hui terriblement attaquées. Et jusqu'à la liberté de la France, c'est-à-dire sa souveraineté nationale. Ce sera ça la motivation de ma candidature à l'élection présidentielle.
Florian Philippot avec Claire Flochel, de l'art de détourner des mots qui ont un sens historique. Apartheid jusqu'à étoile jaune, le pass sanitaire comparé à la Shoah dans un tweet d'Isabelle Balkany, l'ex-première adjointe de Levallois-Perret qui s'est finalement excusée. Ce refrain de la dictature sanitaire, entonné aussi par Nicolas Dupont-Aignan, d'autant plus énervé que la menace d'une candidature concurrente Zemmour se fait pour lui de plus en plus précise. Défense des soignants et des salariés stigmatisés, un président qui décide de tout, tout seul. Ces critiques-là sont largement relayées au RN et à la France Insoumise. Les candidats Le Pen et Mélenchon collent à leurs électorats les plus réticents dans les sondages à la vaccination. Macron transforme une crise sanitaire en crise politique et des libertés, fustigeait hier Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Même plaidoyer pour les libertés chez Marine Le Pen, qui a juste une contradiction à gérer, Marion, et elle est de taille. La candidate est vaccinée, schéma complet, deux doses. Le double discours en politique, c'est toujours risqué.
Yael Gauz, chef du service politique de France Inter, merci à vous. Et quand quelques-uns dénoncent la dictature sanitaire, quand d'autres s'interrogent sur les nouvelles contraintes, une majorité retrousse sa manche pour se faire piquer, ruer toujours. Dans les centres de vaccination, 3 millions de rendez-vous pris sur la plateforme Doctolib depuis lundi. Certains centres se retrouvent débordés. Exemple à Marc-en-Barœul dans les Hauts-de-France où l'on cherche des bénévoles prêts à donner ne serait-ce que quelques heures de leur temps. Florent Vautier.
Monsieur, vous pouvez y aller.
Voilà, super.
Ici, chaque jour, on vaccine 1000 personnes la semaine, deux fois plus le week-end. Alors pour orienter le public, prendre tous les renseignements nécessaires ou éditer les QR codes après avoir reçu sa dose, il faut des bénévoles qui se relaient tous les jours. Mais beaucoup partent en vacances, alors il faut en trouver de nouveaux. William est étudiant et dès qu'il a entendu l'appel, il s'est proposé.
Je me suis dit que s'il cherchait des gens, c'est qu'il fallait des gens et que si je n'y allais pas, potentiellement personne n'allait y aller. Donc je me suis dit que c'était un peu normal et que je n'avais rien d'autre à faire. Donc je suis déjà vacciné deux fois, donc je me suis dit que si je pouvais aider à les faire un peu plus vite, ça pouvait être bien.
L'arrivée de ces nouveaux bénévoles a déjà permis de remplir le planning pour le week-end, mais il faut tenir jusqu'à fin août. Pour être bénévole, rien de très compliqué, explique Laurent Delemaire, l'un des coordinateurs du vaccinodrome.
Ce qu'on recherche avant tout, c'est qu'ils sachent bien écrire, parce qu'en fait, on est sur des étapes qui sont à l'écriture manuelle, donc il faut que ça soit lisible. On cherche des personnes qui désirent s'investir dans quelque chose qui, humainement, est très important. Et surtout, il y a une très bonne ambiance ici, donc il y a vraiment un moment très convivial à passer.
Et on peut même ne venir qu'une seule fois pour aider. Il suffit d'être disponible pendant 5 heures.
Un reportage Florent Vautier, France Bleu Nord. Et conséquence indirecte de l'épidémie, le retard de la vaccination des enfants contre les maladies classiques, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. On risque la catastrophe absolue, alerte l'Organisation Mondiale de la Santé. L'an dernier, 23 millions d'enfants dans le monde n'ont pas reçu leur piqûre, un record depuis 2009. Les ressources et personnels étant mobilisés par la lutte anti-Covid, les familles hésitent parfois aussi à se déplacer pour faire vacciner les petits de peur de s'exposer à la maladie. Vous l'avez peut-être reçu ces jours derniers si vous êtes vacciné contre la Covid, le courriel qui vous invite à utiliser l'application Tous Anti-Covid pour obtenir le pass sanitaire européen. Avant même l'extension du pass en France, ce sésame-là est obligatoire pour se déplacer dans le pays et dans les pays de l'Union européenne déjà depuis le début du mois. Bonjour Xavier Demagny.
Bonjour Marion.
À quoi ça sert ce pass et surtout comment ça marche?
Alors en fait, début juin, la France a anticipé le pass sanitaire européen avec
avec des attestations pour les vacciner et des QR codes dans un format franco-français. Mais depuis le 1er juillet, le pass a donc pris une dimension européenne et ce code a changé de format. En clair, si vous avez été vacciné depuis début juillet, a priori rien à faire, votre attestation est valide, il doit même y avoir un petit drapeau européen dessus. En revanche, si vous avez été vacciné entre janvier et le début de l'été, il faut absolument convertir ce code au nouveau format. Ça se passe soit sur le téléphone, tous anti-Covid, effectivement en 10 secondes top chrono, ou en retéléchargeant la bonne attestation sur le site de l'assurance maladie. En tout cas, c'est indispensable pour franchir une frontière au sein de l'Union.
Et ce pass européen, il est indispensable, on le disait, hein, pour voyager en Europe. Il fonctionnera aussi en France avec l'extension du dispositif ?
En fait, dans les faits, il fonctionne déjà depuis le 9 juin, par exemple, pour les événements de 1000 personnes et plus. La semaine prochaine, dans un premier temps, il sera effectivement étendu aux lieux de loisirs et de culture, comme l'a annoncé le chef de l'État. C'est ce que le gouvernement appelle le pass activité, pour le différencier du pass voyage. Pour ça, le code français continue de fonctionner, mais il va disparaître peu à peu, parce que techniquement, le format du code européen fonctionne pour les deux usages, les loisirs en France et les voyages, même si les règles diffèrent parfois un peu.
Xavier Demagny du service web de France Inter, mode d'emploi à retrouver sur notre site France Inter.fr. Attention, vacanciers non vaccinés qui revenaient d'Espagne ou du Portugal pour limiter la propagation du variant Delta. Le gouvernement réclame un test PCR négatif de 24 heures seulement. C'était 48 heures auparavant. Sur la reprise du virus en France et les nouvelles restrictions mises en place, vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Notre invité à 13h30 sera l'épidémiologiste Antoine Flahau. Demain, pourrons-nous tous payer avec des euros numériques ? Peut-être. En tout cas, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale lance un projet pilote, une réplique au succès des crypto-monnaies comme le Bitcoin, mais une façon aussi, Frédéric Seyss, de contrer les appétits des géants du numérique comme Amazon ou Facebook.
C'est une guerre souterraine, celle pour le paiement numérique. La crise sanitaire a encore accéléré le processus, l'usage du liquide est en fort recul et Facebook va même proposer sa propre monnaie en ligne. Alors pour la Banque Centrale Européenne, il est grand temps de réagir avec la création de cet euro numérique. Si le projet pilote est concluant, à terme, chacun, entreprise ou particulier, pourra utiliser cette nouvelle devise. La BCE promet des paiements rapides, sécurisés, avec des frais minimes, et surtout sans transfert de données au profit des géants du numérique. Ce projet est aussi une réponse à l'essor des crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui elles sont créées et gérées par des acteurs privés. L'euro numérique, lui, sera bien plus stable et plus efficace pour détecter le blanchiment, assure la Banque Centrale Européenne. C'est un enjeu de souveraineté, ont souligné hier soir les gouvernements français et allemand. La Chine a déjà lancé sa propre monnaie numérique. Elle est en phase de test depuis l'an dernier.
Le point sur ce projet pilote dans 2 ans. En attendant, on garde nos pièces de monnaie. Pour garder les rênes, le pouvoir cubain ouvre un peu la porte. Quelques jours après les manifestations historiques, le régime autorise les voyageurs à ramener dans leurs valises des aliments, des médicaments, des produits d'hygiène sans limite de valeur, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Les habitants pourront aussi provisoirement s'installer dans une autre ville que la leur, ce qui ne leur est pas permis aujourd'hui. En Pologne, la réforme judiciaire n'est pas conforme au droit européen. Décision de la Cour de justice des communautés européennes. Nouvelle étape dans la confrontation entre Bruxelles et Varsovie. En cause, cette chambre disciplinaire polonaise accusée d'être sous influence politique. L'Union européenne lance aussi des procédures contre la Hongrie et la Pologne sur la question des droits des personnes LGBT+. Le poumon vert de la planète devient producteur de dioxyde de carbone. Alerte sur la forêt amazonienne lancée par une étude de la revue Nature. En cause, la déforestation et la dégradation de l'est, surtout de la forêt, pour faire place à l'élevage et à l'agriculture. Les plages françaises, elles, sont devenues plus dangereuses cet été. 60% de noyés en plus en juin l'an dernier par rapport à juin 2019. Alerte Santé publique France. Manque d'entraînement, cours de natation manqué, relâchement. Et c'est en mer que les accidents sont les plus nombreux. C'est dans ce contexte que l'agglomération et l'association de sauvetage et d'éducation à la sécurité du Cotentin proposent des animations tout cet été sur les plages du secteur. Atelier hier à Diélette, tour d'horizon des gestes qui sauvent. Et le premier, Pierre Coquelin, c'est la surveillance.
Sur la plage, Philippe, venu des environs de Montebourg, garde toujours un œil vigilant sur ses petits-enfants.
On les laisse atteindre juste le bord de l'eau, mais pas plus. Autrement, on va avec eux. Parfois, on peut voir quelqu'un, un enfant ou un adulte même en détresse, et on ne sait pas forcément savoir ce qu'il faut, comment faire. Je sais bien que je sais nager, mais je ne pense pas que je serais capable de ramener quelqu'un tout seul comme ça.
Justement, à côté, un petit groupe d'enfants et d'adolescents s'initie aux gestes de premier secours, à l'image de César, 10 ans.
On a appris à faire un massage cardiaque, sauver les gens de la noyade et à mettre le défibrillateur.
Un atelier qui dure une petite heure, une partie sur la plage, une autre dans l'eau. Une façon ludique d'apprendre les dangers de la mer. Margot est l'une des animatrices.
C'est important de leur montrer que la mer, c'est pas seulement un plan d'eau qui bouge pas, qu'il y a des courants, des vents qui peuvent les mettre en danger, qu'il faut qu'ils fassent attention à tout ça.
Sur les 300 noyades accidentelles du mois dernier en France, près de la moitié a eu lieu en mer. Juste après, on retrouve les piscines privées. Marie est à la plage avec ses trois petits-enfants.
Je pense que les gens vont chercher à louer des maisons avec piscine pour s'aérer un peu, ça peut être dangereux pour les petits, c'est sûr.
Le mois dernier, en France, 21% des noyades ont concerné des enfants de moins de 6 ans.
Et à propos de noyades, on apprend à l'instant que les inondations liées aux intempéries en Belgique ont fait finalement un bilan pour l'instant provisoire encore de 4 morts dans l'est du pays. C'était donc un reportage de Pierre Coquelin de France Bleu Cotentin. 18e étape du Tour de France, 130 km de montagne entre Pau et Luzardiden, le col du Tourmalet en vedette avec un invité de marque. Cet après-midi, le président de la République dans la voiture du directeur du Tour, participation traditionnelle d'un chef de l'État à une étape de la Grande Boucle. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de retrouver le terrain dans cette région où il passait autrefois ses vacances. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour.
Côté coulisses, encore l'équipe du Bahreïn a vu son hôtel perquisitionné à Pau ce matin.
Oui, l'équipe Bahreïn Victorious, elle va bien prendre le départ hein, d'ici quelques minutes, 13h35, mais évidemment, vous l'imaginez, dans un climat très particulier. Elle a reçu effectivement hier soir la visite de 25 gendarmes de l'Office central contre les atteintes à l'environnement et la santé publique dans son hôtel de Pau. Ceci dans le cadre d'une enquête préliminaire qui a été ouverte le 3 juillet dernier par le parquet de Marseille, hein, qui est spécialisé dans l'antidopage via son pôle santé. Une enquête ouverte pour acquisition, détention et importation de produits dopants. Il y a eu des fouilles, des perquisitions dans les chambres pendant près de 5 heures jusqu'à 2 heures du matin. Des documents, notamment des fichiers d'entraînement saisis, mais aucune arrestation. L'équipe qui est financée par le gouvernement de Bahreïn a communiqué ce matin. Elle a confirmé tout ça. Elle explique avoir collaboré, mais déplore ne pas avoir été avisée, dit-elle, de l'objet de ces investigations. Cette équipe Bahreïn Victorious réalise un bon tour hein, avec une 10e place au général pour son coureur espagnol Peyo Bilbao. 2 victoires d'étape, le belge Toins et le slovène Mohoric, mais ce sont surtout les performances hein, antérieures sur le dernier Giro, la 2e place de Caruso l'italien, et sur le dernier critérium du Dauphiné, surtout les 2 victoires d'étape de Marc Padoun qui ont, c'est vrai, surpris ces dernières semaines les observateurs. Précisons également que le patron de cette équipe Bahreïn est également cité dans une enquête de l'UCI en lien avec l'affaire Aderlas, affaire qui concerne le sport slovène en général.
L'enjeu purement sportif, lui, reste le même. Hein. Le Slovène Tadej Pogacar peut-il encore perdre son maillot jaune ?
Dernière étape de montagne avant les Champs-Élysées aujourd'hui, ça semble quand même compliqué, il semble bien vissé ce maillot jaune sur les étapes du Slovène. Elle est courte cette étape aujourd'hui, 130 km, mais elle est intense avec le Tourmalet, mythique ascension évidemment, et puis la montée de Luzardinen, 2 ascensions hors catégorie. Alors peut-être encore un festival hein, d'ailleurs pour Tadej Pogacar que rien ne semble inquiéter, personne ne semble inquiéter. Il a gagné hier, vous le savez, avec le maillot jaune, il a plus de 5 minutes 30 d'avance sur ses 2 concurrents sur le podium. Les jeux, c'est vrai, semblent faits hein, pour Tadej Pogacar, mais il devra sans doute se défendre encore aujourd'hui, répondre à des attaques, peut-être une attaque de David Godu, le français. On l'a vu en jambes hier au col du Portet, il a pris la 4e place, il va gravir ce Tourmalet, là où son coéquipier Thibaut Pinot, en 2019 avait conquis la plus belle victoire de sa carrière. Ça peut peut-être le motiver, en tout cas les Français sont toujours en quête d'une 2e victoire d'étape sur ce Tour, après celle de Julien Alaphilippe.
On suivra ça avec le départ des coureurs qui s'élanceront à peu près dans une heure, Nicolas Perronnet, avec les moyens techniques de Julien Girard. Merci à vous. L'ombre de la Covid plane toujours sur les Jeux Olympiques de Tokyo à une semaine de l'ouverture du grand rendez-vous sans public. Les athlètes et les médias arrivent en nombre dans une capitale japonaise en état d'urgence face à la cinquième vague de l'épidémie. Afflux regardé d'un œil méfiant par les intérimaires, bénévoles et salariés de l'hôtellerie, inquiets de leurs conditions de travail. Correspondance Karine Nishimura.
Le jeune Shin travaille comme intérimaire pour les Jeux Olympiques. Il aide les athlètes et médias à l'arrivée à l'aéroport de Tokyo, mais même s'il sait que beaucoup des participants étrangers des JO sont vaccinés, il craint les contacts rapprochés.
Le gouvernement dit que tout va bien, mais ce ne sont que des paroles.
Parfois, dans les délégations, certains enlèvent machinalement leur masque, s'écartent du chemin balisé. Mais les intérimaires et bénévoles ne savent que dire.
On ne nous a jamais expliqué comment s'y prendre avec quelqu'un qui ne porterait pas de masque.
Conscient des craintes, les organisateurs ont décidé de vacciner les 70 000 bénévoles, mais c'était déjà trop tard. Problème aussi pour l'hôtelier Takashi Tsunoda. Son établissement fait partie des 150 sélectionnés par les organisateurs pour héberger des journalistes étrangers. Mais quand il a appris que tous viendraient directement de l'aéroport sans isolement préalable, il s'est inquiété pour son personnel, ni formé pour appliquer les règles sanitaires souhaitées, ni vacciné.
Je n'avais pas compris que la quarantaine se faisait dans notre hôtel. Si les organisateurs ne nous offrent pas un important soutien, ça va être compliqué.
Finalement, à l'instar d'autres hôtels, il a résilié le contrat avec les JO. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Direction Haïti maintenant, c'est là que nous emmène aujourd'hui le festival de Cannes avec le long métrage qu'a vu notre reporter. L'histoire se déroule dans ce pays en pleine crise politique, plus encore depuis l'assassinat du président il y a une semaine. Freda, c'est le titre du film de la réalisatrice haïtienne Jessica Genus. Freda est bien une fiction, mais il raconte une histoire vraie, Yann Gallic, le quotidien d'une jeunesse confrontée à la crise sociale, économique et politique sur fond de violence et de corruption.
Freda est une jeune haïtienne qui habite avec sa mère, sa sœur et son frère dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Cette famille tente de survivre dans un pays meurtri où une balle perdue peut vous tuer à chaque coin de rue entre la guerre des gangs et les manifestations contre la corruption. La jeunesse haïtienne se trouve confrontée à un dilemme. Faut-il rester ou s'exiler ? Freda veut croire en l'avenir de son pays, comme l'actrice Néhémie Bastien qui interprète le rôle.
La majorité des jeunes en Haïti veulent laisser le pays, mais il faut se battre. On ne peut pas laisser le pays à la dérive comme ça. Je ne veux pas lâcher, je veux rester avec la positivité qu'un jour, il y aura quand même une étincelle pour ce pays.
En attendant cette étincelle, l'assassinat du président Jovenel Moïse début juillet est révélateur du chaos qui règne en Haïti. Jessica Genus est la réalisatrice du film.
Il y a tellement de gens qui ont été assassinés et qui n'ont pas eu, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'enquête. Et lui, il fait partie de cette liste-là en tant que président. Mais je ne sais même pas comment avoir de la sympathie pour ça, parce que je me dis, tu avais 4 ans pour créer un climat de sécurité pour nous tous. Mais il n'a pas pu. Où il n'a pas su le faire. Et c'est ça qui est triste.
Selon Jessica Genus, il est aujourd'hui impossible de vivre en paix dans ce pays où la violence est devenue banale.
Et le festival du film revient sur Inter juste avant 14h avec la chronique de Laurent Delmas. Elle s'appelait Renée d'Orléac. Elle avait travaillé au théâtre, était une des premières comédiennes de doublage et donné naissance à deux immenses actrices, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Renée d'Orléac donc s'est éteinte dimanche à l'âge de 109 ans. On l'apprend aujourd'hui. Elle sera inhumée dans le caveau familial, annoncent ses enfants et petits-enfants. Ciel triste pour ce jeudi 15 juillet.
La météo. Avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
On en parlait au début de ce journal, attention aux pluies et aux crues sur le nord-est, 11 départements en vigilance orange.
Oui, entre les Ardennes, la Franche-Comté, le nord des Alpes, les pluies restent soutenues. Sur l'ouest de la Bourgogne, le massif central et Rhône-Alpes, là, quelques pluies, mais beaucoup plus éparses. Sur l'Alsace et la Lorraine, ce sont des averses orageuses qui sont attendues cet après-midi. Donc prudence sur toutes ces régions. On a des crues importantes qui se poursuivent, des inondations à craindre, donc soyez vraiment vigilants. Ailleurs, c'est un ciel plus variable avec des éclaircies appréciables, plus timides quand même vers la région parisienne, le centre Val-de-Loire, les Pyrénées. Sur le littoral atlantique, la Bretagne, Bretagne, la basse Normandie, là c'est plein soleil, même chose en Méditerranée mais au prix du vent, avec un petit bémol pour le sud des Alpes où on a quelques averses orageuses attendues cet après-midi. Et puis il fait encore frais mais ça monte doucement, 19 degrés à Nancy, Dijon, Grenoble, 22 à Lille et Clermont-Ferrand, 24 à Rennes, à Toulouse, 25 degrés attendus à Paris cet après-midi, 26 à Cognac et 30 degrés à Nîmes. Et puis demain on aura encore des pluies dans l'Est mais rien à voir avec ce qu'on a eu les jours précédents et une belle amélioration par l'Ouest.
Merci Élodie Calac de Météo France. Dans un instant, passe sanitaire étendue, vaccin obligatoire pour certains. Ces mesures sont-elles nécessaires et suffisantes pour battre le coronavirus? Avec nous, l'épidémiologiste Antoine Flao. Appelez-nous 01 45 24 7000.
France Inter présente
Sur les routes de la musique,
un livre d'André Manoukian.
Savez-vous que l'homme préhistorique jouait de la flûte, que Bach défiait ses concurrents en battle ou que Nina Simone rêvait d'être une pianiste classique?
Une histoire de la musique pas comme les autres, pleine d'humour et d'anecdotes savoureuses pour éclairer les liens surprenants entre les grands courants musicaux.
Sur les routes de la musique,
d'André Manoukian, une coédition France Inter.
France Inter aime
Un violon sur le sable. En attendant la plage et ses immenses concerts symphoniques sur le sable de Royan en Charente-Maritime, Un violon sur le sable résonnera cet été sur tout le pays royanais, du 16 juillet au 4 août, chaque soir. Avec Nemanja Radulovic, Alexandre Tarot, Nathalie Dessay, Lucienne Renaudin-Vary, Camille Thomas et tant d'autres grands talents. Pour faire vivre la musique classique seulement pour tous. Un violon sur le sable, du 16 juillet au 4 août. Un événement France Inter.
France Inter, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
8800 nouveaux cas de Covid en 24 heures, deux fois plus de contaminations quotidiennes en une semaine. On croyait notre été sauvé, mais voilà que le Delta nous entraîne dans une nouvelle vague. Le scénario du pire de l'Institut Pasteur prévoit 40 000 contaminations début août. On verra si le vaccin obligatoire pour certains et l'extension du pass sanitaire permettront de faire mentir les chiffres. Avec nous, pour faire le point sur cette situation, Antoine Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale et professeur à la Faculté de médecine de Genève. Vos questions 01 45 24 7000. Et sur l'application France Inter. Bonjour Antoine Flao.
Bonjour.
Cette progression rapide du virus, c'est alarmant?
Alors c'est inquiétant, c'est préoccupant parce que toute l'Europe de l'Ouest est concernée aujourd'hui. Ça a commencé il y a à peu près 2 mois par la Grande-Bretagne. D'ailleurs ce chiffre de 2 mois est important parce qu'il va peut-être nous donner quand même un répit parce que ça commence en France ou en Suisse en ce moment. On a peut-être quand même la possibilité d'avoir un répit relatif, en tout cas jusqu'à la fin du mois d'août. Mais l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas connaissent des accélérations très très importantes, plus importantes que celles qu'on a même vues durant les vagues précédentes.
Alors à ce sujet, Antoine Flao, j'avais une question qui est également celle de Hélène qui nous a contacté via l'application France Inter. On parle d'une hypothétique 4e vague de Covid, mais le nombre de contaminations augmente sans que les hospitalisations et les entrées en réanimation augmentent. Alors pourquoi, dit-elle, Hélène, pourquoi ne pas laisser ceux qui ne développent pas de forme grave s'immuniser de manière naturelle maintenant ?
Alors ça, c'est une des propositions qui est retenue par les Britanniques. Boris Johnson a à peu près fait la même analyse et préconise aussi aux personnes jeunes de se contaminer puisque, dit-il, les personnes plus âgées ou à risque désormais sont vaccinées. En fait, c'est un pari extrêmement risqué. D'abord, il a été pris par les Britanniques au tout début de la pandémie, pendant quelques semaines, et puis ils sont revenus sur cette décision tellement les risques sont grands. Les risques, c'est quoi ? Il faut se rappeler qu'une vague épidémique, c'est à peu près 5% de la population qui est infectée. Et un peu moins d'ailleurs des personnes de plus de 50 ans, qui sont elles vraiment à risque. On peut se dire aujourd'hui, en tout cas en France, très clairement, et même probablement au Royaume-Uni, qu'il reste au moins ces 5% pour faire une vague de la même ampleur, au minimum, que celle qu'on a vue jusqu'à présent, et y compris de saturer les hôpitaux à nouveau.
Donc ce que vous pensez, excusez-moi Antoine Flao, je voudrais bien clarifier votre propos, ce que vous pensez c'est que le nombre d'hospitalisations n'augmente pas parce qu'il y a un décalage, ce n'est pas parce que les gens sont finalement déjà largement immunisés parce qu'ils sont largement vaccinés.
Oui, c'est une hypothèse. On ne fait pas, nous, à l'Université de Genève, de prévision au-delà de 7 jours, parce qu'on n'y croit pas. On pense que les modèles ne sont pas suffisamment aujourd'hui au point pour cette pandémie de Covid, pour prédire bien au-delà de 7 ou 15 jours, comme peut-être l'Institut Pasteur le fait, là, à 15 jours. Donc, il est difficile de savoir si vraiment les hospitalisations vont grimper, mais une hypothèse est qu'il y ait un décalage. Vous savez, ce décalage, on l'a connu l'été dernier. Alors certes, dans un contexte différent, les gens n'étaient pas vaccinés à ce moment-là, mais l'été dernier, c'est les jeunes qui se sont contaminés les premiers et qui, à leur tour, à la rentrée, ont contaminé les personnes plus âgées ou plus à risque et qui sont venues finalement avec des complications au risque de saturation des hôpitaux pour la deuxième vague à l'automne suivant. Donc il peut y avoir un décalage de plusieurs semaines entre la montée des cas, des contaminations que l'on voit aujourd'hui et celle des hospitalisations et malheureusement des décès.
Donc ce risque est encore réel, le risque de saturation d'après vous ?
Donc ce risque de saturation est vraiment réel tant que, je vais dire, plus de 90% et peut-être 95% de la population ne sera pas vaccinée. La clé de tout cela, c'est la vaccination. On le sait très bien pour la rougeole. Je vais vous donner une petite anecdote. Dans les années 1990, la France et l'Allemagne étaient les deux premiers exportateurs mondiaux de rougeole, de cas de rougeole, en tout cas d'exportateurs aux États-Unis de cas de rougeole. Ça agaçait les États-Unis qui, eux, avaient quasiment éliminé la rougeole. La différence, c'est que la France avait 85 ou 86% de vaccinés contre la rougeole, comme l'Allemagne, et que les États-Unis en avaient 98%. En fait, il fallait atteindre au moins 95%, et maintenant c'est le cas pour la rougeole, et on n'exporte plus de cas de rougeole vers le continent américain. Donc il y a un effet seuil. Tant qu'on est au-dessous de ce seuil, malheureusement, on a des risques importants de continuer à être embêté comme ça.
Et pour atteindre ce seuil, alors le président de la République a annoncé cette semaine l'extension du pass sanitaire aux lieux de loisirs dès la semaine prochaine, puis aux restaurants, aux centres commerciaux. Il y a des sanctions à la clé, les vaccins obligatoires aussi pour les soignants. Est-ce que ça suffit, d'après vous, à atteindre ce seuil de 80-90% dont vous parlez ?
Alors, vous savez, chacun un peu dans son rôle. Les scientifiques sont assez d'accord sur l'idée qu'il faut un seuil très élevé. On n'est pas tous d'accord sur le 90 ou le 95. Certains disent encore 80%. Peut-être ont-ils raison. Mais tout le monde sait qu'il faut en tout cas beaucoup plus que les 50% actuels en France. Et même plus que les 70% actuels au Royaume-Uni. Ensuite, c'est aux politiques d'essayer de faire en sorte que leur population arrive à plus de 90%. Et je dirais qu'il y a quatre méthodes pour cela, qui sont d'ailleurs qu'on peut combiner. Il y a la pédagogie, peut-être ce qu'on est en train de faire un peu en ce moment. Il y a des mesures incitatives. Alors, vous savez, les Grecs donnent un chèque de 100 euros aux jeunes qui se font vacciner.
Il y a des loteries aux États-Unis.
Des loteries, même des joints de cannabis. Enfin bon, des choses qui ne sont pas forcément dans la culture de tous les pays. Il y a ce qu'on peut appeler le marketing social. Le marketing social, c'est à Singapour, ils ont fait ça. C'est des clips, c'est des vidéos très, très orientées vers les publics qui ne se font pas aujourd'hui assez vacciner, par exemple vers les jeunes. On sait leur vendre des boissons énergisantes. Ben, vendons-leur des vaccins. Et puis, il y a l'obligation. Et l'obligation, c'est pas quelque chose de tabou. C'est pas quelque chose qui n'existe pas en France, puisqu'il y a 11 vaccinations obligatoires, parce qu'il y a des déclarations obligatoires de maladie, parce que on est obligé de mettre sa ceinture de sécurité, parce qu'on est obligé de porter le casque et de ne pas fumer, etc. On est donc habitué à des obligations pour le bien public, pour le bien commun ou pour sa propre santé. Et tous les pays ne sont pas pareils. Par exemple, en Suisse, si jamais le gouvernement faisait cela, probablement le système de la démocratie suisse ferait qu'il y aurait un référendum d'initiative populaire qui dénaturerait le projet de loi s'il rencontrait une majorité contre. En Allemagne également, on n'a pas la culture de l'obligation. En France, on l'a un peu plus. Et par ailleurs, il y a un Parlement qui se charge de voter le projet de loi, voire de l'amender, voire de l'améliorer. Donc, chaque démocratie doit trouver un petit peu son tempo, mais l'objectif, c'est d'arriver à plus de 90% le plus rapidement possible. Et il faut bien reconnaître, pour nos dirigeants, qu'en démocratie, c'est pas facile d'avoir 90% d'adhésion aux idées, même les meilleures, que l'on peut soutenir. Et même quand c'est des scientifiques qui sont derrière vous et qui vous les soutiennent, ça ne permet pas de convaincre, en général, 90 ou 95% de la population.
Et vous comprenez, du coup, Antoine Flahault, les 19 000 manifestants qui ont défilé hier pour dénoncer une dictature sanitaire,
Mais c'est très sain qu'il y ait un débat politique. Il n'y a pas eu beaucoup de débats politiques sur la crise de Covid, étonnamment. Les parlements, pas qu'en France, mais dans tous les pays du monde, se sont très peu emparés de ces questions qui sont éminemment complexes. Parfois, des gens d'opposition ont émis des avis et se sont un peu pris les pieds dans le tapis, donc ils ont plutôt été à reculons. Là, aujourd'hui, il y a un vrai débat, parce que c'est une question politique. La question scientifique, elle est réglée. Il faut qu'il y ait une très très, très forte couverture vaccinale. La question politique, c'est comment y arriver. La pédagogie, oui, mais ça prend beaucoup de temps. Les mesures incitatives, c'est vraiment pas tellement notre culture. Le marketing social, peut-être, mais c'est pas non plus... C'est un peu infantilisant. Bref, l'obligation fait partie des moyens, et on peut le comprendre. C'est normal qu'il y ait des gens qui le contestent.
Alors, on a une question assez pratique, d'Evelyne, qui nous appelle de Paris et qui a appelé le standard de France Inter. Bonjour, Evelyne.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, votre D'accord. question à Monsieur Antoine Flahaut.
Oui. Bonjour, professeur. Voilà, c'est très pratique, ma question. J'ai 77 ans. J'ai eu le Covid au mois d'octobre. Pas trop grave. J'ai pas été à l'hôpital, c'est ça que je veux dire. Mais enfin, j'ai eu des troubles, etc. Perdu le goût et l'odorat et d'autres choses. Au mois de février, j'ai fait une première dose de vaccin Moderna, le 12 février. Je n'ai pas fait la deuxième dose parce qu'on m'a dit que je n'en avais pas besoin, compte tenu du fait que j'avais été contaminé au mois d'octobre. Mais ça c'était au mois de février la première dose, maintenant on est au mois de juillet, entre-temps le virus a muté, et je voudrais savoir si malgré tout, je n'ai pas besoin de refaire une deuxième dose, que ce soit du Moderna ou autre chose, mais une dose de quelque chose.
Alors votre réponse à Evelyne, professeur Flahaut.
Alors, en fait, elle a fait tout à fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que ce que l'on pense, c'est que avoir eu le Covid, c'est l'équivalent d'une première dose. Donc, après, elle a eu sa dose de Moderna, c'est sa deuxième dose, et il n'est pas nécessaire de refaire ce vaccin parce que on a montré que c'est presque le meilleur modèle qu'elle a eu, je dirais, d'immunisation, parce que elle a à la fois une immunisation d'origine naturelle liée au virus, et puis une immunisation complétée par le vaccin. Donc elle est dans le meilleur schéma de figure de protection immunitaire contre le virus et les variants, puisqu'on a pu démontrer que le Moderna, comme le vaccin de Pfizer ou celui d'AstraZeneca, sont d'excellents vaccins vis-à-vis aussi du variant Delta. Ça n'empêche peut-être pas complètement de contracter l'infection par le variant Delta, mais ça empêche complètement d'avoir une forme grave, une forme sévère qui pourrait conduire à l'hospitalisation. Donc ça, c'est exclu maintenant. Vous êtes protégée, Evelyne, contre un Covid grave. Et je crois que c'est vraiment cela que l'on peut demander de cette vaccination.
Alors, on a une question d'Emmanuel sur l'application France Inter qui nous demande quelle est la létalité du variant Delta, quel est le risque pour les personnes en bonne santé. En clair, est-ce qu'il est plus létal que la souche d'origine ou simplement plus contagieux ?
Alors, il est plus contagieux, ça c'est certain, et tout le monde aujourd'hui s'accorde pour le dire, et puis je dirais malheureusement, on voit qu'il gagne toutes les compétitions internationales partout dans le monde. En revanche, la question de la létalité n'est pas tranchée. Il y a un débat, et il y a d'ailleurs des données un petit peu contradictoires, parce que la létalité, ça dépend beaucoup du système de santé. C'est pas pareil si vous êtes en Inde ou peut-être même en Russie aujourd'hui et où vous n'avez pas le même système de santé, le système d'hospitalisation et de prise en charge que vous avez dans des pays comme ceux de l'Europe. Et donc, la létalité n'est pas la même. Mais en Grande-Bretagne, ils n'ont pas montré d'augmentation de la létalité de façon très évidente. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une augmentation du nombre d'hospitalisations, notamment chez les jeunes, mais justement, les jeunes ne meurent pas, heureusement, dans la plupart des cas de ce virus, et en général, tout se déroule très bien après ce mauvais passage.
Alors, Antoine Flahaut, on parle beaucoup du vaccin, on parle beaucoup moins des traitements, des médicaments. À ce sujet, on a une question de Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Votre question à Antoine Flahaut.
Voilà, je vous appelle parce qu'on entend déjà parler de troisième dose. Donc peut-être qu'il y aura des rappels à faire régulièrement tous les ans ou tous les six mois. Et ça semble difficilement tenable sur le long terme. Donc je voulais savoir où en était la recherche sur les autres types de médicaments pour soigner le coronavirus.
On n'a toujours pas le traitement, Antoine Flahaut ?
Non, alors merci Mathieu pour cette question. Je pense que c'est une très très bonne question parce que il ne faut surtout pas lâcher en effet les investissements et la recherche sur les traitements contre le Covid. On n'a pas encore de traitement miracle, c'est tout à fait exact, mais on a quand même des grands progrès qui ont été faits. Il faut savoir que aujourd'hui, quand vous rentrez à l'hôpital, la mortalité des gens qui rentrent à l'hôpital a baissé de 30 à 50% dans tous les hôpitaux du monde. Et ça, c'est vraiment grâce au fait qu'on prend mieux en charge les patients, mais c'est pas grâce à un traitement miracle. Alors, il y a des très bons médicaments anti-inflammatoires, par exemple la dexaméthasone, qui est un traitement qui marche bien et qui permet de diminuer la mortalité. Puis il y a évidemment l'oxygène, etc. Et on a quelques pistes intéressantes avec des anticorps alors, monoclonaux, etc. Donc, il y a de la recherche et il faut la continuer parce que, comme l'a dit Mathieu, on ne sait pas très bien de quoi l'avenir sera fait et des médicaments pourraient être très utiles.
Et il y a la question de l'ivermectine aussi. Ça, c'est Isabelle qui nous demande sur l'application France Inter. Avez-vous connaissance de l'étude de l'Institut Pasteur sur l'efficacité de l'ivermectine et qu'en pensez-vous ?
Alors, l'ivermectine, un peu comme la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, font partie de ces médicaments que l'on a voulu repositionner. Et malheureusement, ça n'a pas tenu les promesses qui pouvaient s'annoncer en laboratoire. C'est-à-dire que en laboratoire ou par certaines petites équipes faisant ou grandes équipes d'ailleurs faisant des travaux un peu isolés sur ces médicaments-là, ils ont pu lever des promesses qui devaient être confirmées par des essais cliniques. Malheureusement, les essais cliniques, tant pour la chloroquine que pour l'ivermectine, ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des espoirs que nous avons pu avoir. C'était une très bonne idée parce que faire un médicament, on dit généralement il faut une dizaine d'années pour faire un médicament. Repositionner un médicament qui existe sur le marché, il faut très peu de temps. Il faut le temps d'un essai randomisé de phase 3, c'est-à-dire un essai clinique. Mais ces essais aujourd'hui, il y en a encore en cours pour l'ivermectine. C'est pas, la porte n'est pas complètement fermée. C'est encore à suivre. Malheureusement, ça me semble assez peu, on a assez peu d'espoir.
Merci Antoine Flahaut, médecin épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale et professeur à la Faculté de médecine de Genève. Vous venez de publier Covid, le bal masqué aux éditions Dunod. Merci d'être venu pour France Inter et désolé aux auditeurs, on n'a pas pu prendre toutes les questions, il y en avait beaucoup.
France Inter, le 13-14.
Il est 13h46 sur Inter. Avenir, pas de feu de signalisation ni de contrôle d'alcoolémie sur la Seine, mais il faut tout de même veiller aux règles de respect de la circulation. C'est le travail des policiers de la brigade fluviale. Nouvel épisode de notre feuilleton. Le Festival de Cannes, ses humeurs, sa météo, au programme de la chronique de Laurent Delmas. Bonjour Laurent.
Bonjour Marion, oui, un Audiard tout nouveau et très chaud, un festival qui est une tour de Babel et un Niagara pour finir.
Et rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Le festival La Part Belle se tiendra à la fin du mois à Sarzeau dans le Morbihan. Vous avez rencontré sa fondatrice Louise Robert.
Louise Robert qui voulait, avec ce festival, faire cohabiter les deux passions de sa vie, la création artistique et l'environnement. Dans le vaste domaine de Kerlévenant, un château, une chapelle, un parc de 30 hectares, on pourra donc voir des expos et assister à des concerts. Frédéric Astal et Yael Naïm, mais aussi participer à des ateliers ou écouter des tables rondes, le tout dans un esprit à la fois chaleureux et bien sûr éco-responsable.
Par exemple, sur la gestion des déchets, on collabore avec des ressourceries. Sur la gestion de l'eau, on avait mis en place sur la première édition une vaisselle partie où les gens pouvaient faire leur vaisselle sur le festival. Donc ça crée aussi des moments de convivialité parce qu'il y a un petit peu d'attente. Donc on fait connaissance avec les uns les autres. Sur la billetterie aussi, on reverse une partie des fonds, 10 centimes par billet, à une association locale qui va participer à un projet de reforestation du Morbihan. Voilà, on apporte un petit peu aussi une parenthèse dans ce festival, puisque par exemple sur le temps du déjeuner, il ne se passe rien. Les gens mangent, pique-niquent sur la prairie du domaine et prennent le temps aussi de regarder le cadre dans lequel ils sont. Là où sur d'autres festivals, on court de scène en scène, on fait la queue pour attraper un sandwich, on va un petit peu à l'inverse de ça. In this proud land, we grew up strong. We were wanted all along. Name, but no one wants you when you lose.
C'est donc un duo qu'a choisi de nous faire écouter Louise Robert, Don't Give Up, par Peter Gabriel et Kate Bush.
Duo sorti en 1986 sur le cinquième album de Peter Gabriel, et c'est l'une des chansons préférées de Louise Robert.
Celle-ci, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, parce que quand j'étais plus jeune, mes parents écoutaient énormément Peter Gabriel et Kate Bush, et ils m'ont bercée en fait tout au long de ma vie. Parce qu'aussi, c'est des soirées passées avec mes cousins à manger des pâtes, à regarder le concert Secret World de Peter Gabriel, à recopier les chorégraphies. Donc je les connais par cœur. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire ce métier, de voir les gens heureux au même moment, dans un concert, chanter ensemble, danser ensemble. Donc là, fatalement, un duo entre deux artistes que j'ai le plus écouté dans ma vie, c'est un peu une évidence et ils m'accompagnent vraiment tout le temps. Et c'est une sorte de mantra musical, don't give up, don't give up. Et donc je trouve que c'est voilà, un titre qui, moi, m'apaise beaucoup. Moved on to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men no one needs.
Une phrase que vous vous dites, n'abandonne pas.
Oui, c'est une phrase que je me dis. Parce que quand on mène des projets justement en lien avec l'écologie, l'environnement, c'est pas toujours simple. Parfois on a envie de tout arrêter. Et puis en fait, il y a toujours une petite voix qui me dit non, on n'arrête pas. Et donc ce titre-là, il invite à ça.
C'est une histoire d'amour pour vous, cette chanson ?
L'amour au sens large, oui. Parce que c'est effectivement une histoire de couple. Mais en même temps, c'est aussi l'amour des autres. Ces personnes qui gravitent autour de nous, qui font ce qu'on est aujourd'hui, qui nous accompagnent un petit peu dans nos choix, dans nos difficultés, dans nos succès. Donc c'est une chanson que j'écoute aussi pour me recentrer, me ressourcer et me rappeler qu'en fait tout va bien, on peut continuer d'avancer.
Don't Give Up, Peter Gabriel et Kate Bush. C'était donc, Frédéric, le choix de Louise Robert.
La fondatrice du festival La Part Belle, dont la deuxième édition se tiendra les 31 juillet et 1er août à Sarzeau dans le Morbihan.
Merci Frédéric, à demain.
À demain.
Une semaine dans leur vie, encore une escale avec nos policiers de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris, ces fonctionnaires chargés de surveiller la Seine et ses canaux. Dans ce cadre, ils veillent aussi au respect des règles de navigation. Comment font-ils ? Réponse avec ce nouvel épisode du feuilleton d'Ariane Grissel.
Donc là, sur ce premier ponton, on a plusieurs bureaux qui sont réunis. On a les bureaux des instructeurs de plongée. Nous avons ici la cellule d'appui opérationnel. Ici, nous avons l'unité judiciaire avec à la tête un brigadier chef. Donc une petite unité qui, toutes les semaines, est chargée de contrôler avec les effectifs de brigade, de faire des contrôles, que ce soit dans les ports, dans les écluses, ou dans des coins de Seine ou de Marne ou autre. Voilà. La réglementation fluviale est compliquée à appréhender. Et puis en plus, on a quelques difficultés, c'est-à-dire qu'en fluvial, la vitesse n'existe pas, l'alcoolémie n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, mauvais jeu de mots, mais ils travaillent un petit peu entre deux eaux avec une réglementation qui n'est pas toujours très très claire.
Est-ce qu'on parle en votre prénom, s'il vous plaît ?
Oui, Marie-Charlotte. Alors auparavant, j'étais sur la voie publique, comme on dit, spécialisée dans le contrôle des poids lourds. Donc pareil, qui est régi par le code des transports, et moi en fait je faisais la partie donc poids lourd autocar, et en milieu fluvial on est régi aussi par le code des transports, qui est aussi une spécialité, mais dans la navigation fluviale en fait, qui est vraiment particulière. Donc on va faire des contrôles, alors ça peut être en écluse en partenariat avec la DRUA.
Qu'est-ce que c'est?
C'est la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, qui en fait va faire exactement le même métier que nous, enfin les mêmes missions dans les contrôles en écluse. On va contrôler en fait les bateaux, les mariniers, tout ce qui est transport de marchandises ou les bateaux de plaisance, mais c'est un peu plus rare sur la Seine. Donc là, on y va en bateau, on contrôle donc les documents de bord, doivent avoir la VHF allumée, donc c'est le moyen de télécommunication. L'AIS allumé, c'est un moyen de, une position radar, on va dire, qui va permettre de les géolocaliser.
Et comment est-ce que vous êtes accueillis quand vous faites vos contrôles ?
Il n'y a aucun problème avec les mariniers, même les bateaux de plaisance, quand on est en patrouille et que par exemple on va croiser un plaisancier qui va naviguer un peu trop vite, on va procéder à un petit contrôle de routine sur les équipements de sécurité par exemple comme les gilets de sauvetage, bouées, tout ça, les gaffes, et ça se passe en général très bien. Un équipage qui est la patrouille qui est partie, qui est en contrôle. Bateau de plaisance, bateau de passagers. Vous voulez qu'on s'approche ?
Okay. Typiquement, une mission de sécurisation, de contrôle aussi de bateaux à passagers.
Donc là, vos collègues se sont garés, c'est ça ? Ils ont intercepté ces deux bateaux pour essayer de vérifier tous les papiers.
Effectivement, aux deux bateaux de se stopper pour procéder à un contrôle en toute sécurité. Là, vous voyez un des pilotes qui est en train de chercher tous les documents afférents au pilotage de son bateau. Bon, un certain nombre de pièces ont été énumérées tout à l'heure par Marie-Charlotte à l'unité judiciaire. On a souvent un fond d'alcool quand même sur les bateaux. Donc là, ça a l'air gentil quand même.
Oui, là, c'est un groupe de jeunes touristes, on peut dire, ou au moins de visiblement, ce sont des bateaux qui se louent, c'est ça?
Donc ça, c'est du quotidien, classique.
Une semaine dans leur vie, reportage d'Ariane Grissel avec Sandrine Malon et Juliette Gou à la réalisation. Dernier épisode demain, le cadre atypique et plaisant de la Brigade Fluviale.
France Inter, le 13-14.
Des fleuves à la Palme, bientôt direction Cannes avec Laurent Delmas. Laurent, quelle météo sur le festival aujourd'hui ?
Eh bien, encore une petite baisse avec seulement 24 degrés sur les plages cannoises, mais rien de grave, Marion, rassurez-vous. Côté festival, le nouveau film de Jacques Audiard a nettement fait monter la température, lui en dressant le portrait de quatre jeunes gens à la sexualité très active, notamment. Avec les Olympiades Paris 13e, le Palmé d'Or pour Dipane opère un tournant notable dans sa filmographie. Hein. Depuis sa première œuvre, Regarde les hommes tombés, jusqu'aux Frères Sisters, Audiard affichait une cinématographie à la virilité, disons, décomplexée. Au point de faire de certaines de ses héroïnes, souvenez-vous, de véritables handicapés. On se souvient ainsi de la surdité d'Emmanuel Devos dans Sur mes lèvres, ou carrément de l'amputation de Marion Cotillard dans De rouille et d'os. Mais le scénario de ce nouveau film, en piste pour la Palme, donc, a été adapté et écrit avec Céline Sciamma et Léa Missius, deux représentantes d'une nouvelle vague française résolument féminine et féministe. Et ben, le résultat est là. Quatre destins qui se croisent, trois jeunes femmes et un jeune homme, black, blanc, jaune, dirait-on, dans le décor très urbain du quartier chinois de Paris. Audiard le film en noir et blanc, avec une infinie tendresse, de même qu'il caresse littéralement ses personnages, aidé par un casting idéal, la plus que parfaite, Noémie Merlant en tête. Alors de ces fragments des nouveaux discours et pratiques amoureuses, Audiard pourrait ne tirer qu'un récit opportuniste et, il faut le dire, dans l'air du temps. Ben, c'est sans compter sur son intelligence et son élégance qui rendent ce nouveau film très attachant. Audiard romantique, peut-être, après tout. Mmh. Et ce nouveau film pourrait aussi s'appeler « Regarde les femmes se lever ».
Et Cannes, Laurent, c'est aussi une tour de Babel.
Oui, parce que longtemps, les films à Cannes représentèrent leur pays d'origine, vous savez. Ce n'est plus le cas désormais. Mais l'essentiel demeure. Durant 15 jours, c'est le monde entier, ou presque, qui s'invite sur la croisette. Nous offrons autre chose que des cartes postales. De même qu'en découvrant le nouveau film de Jacques Audiard, justement, un touriste étranger s'apercevra de l'existence du 13e arrondissement et de ses tours, bien différentes de celles d'Eiffel. De même, nos idées reçues hexagonales sont heureusement bouleversées par l'Iran, tel que nous le montre Faraday, la Russie, selon Serebrennikov, ou le Tchad, via le regard de Mahamat Saleh Haroun, pour ne citer que. À titre d'exemple, et pour la seule journée d'aujourd'hui, Marion, les spectateurs cannois découvriront des films, des auteurs et des réalités venus de, tenez-vous bien, la Bulgarie, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Maroc, l'Australie, la Belgique, le Mexique, le Japon, et j'en oublie. C'est la force de ce festival international que de rassembler ainsi les cinémas du monde entier et dire que certains affirment que le 7e art est mort. Croyez-moi, le prétendu cadavre bouge encore dans tous ses états et ses éclats mondiaux.
Et pour tous les vivants, l'ère de Cannes sera pop aujourd'hui.
Oui, voilà, finissons là où nous avons commencé avec Jacques Audiard, qui, comme à son habitude, propose une bande musicale très soignée et confiée cette fois à Ron, mais dans une scène décisive de karaoké. On y trouve également un tube du groupe Niagara, le très bien nommé à cet instant, « Je dois m'en aller ».
Viens contre moi, viens tout contre moi, viens toucher le bout de mes doigts, viens sortir.
Laurent Delmas, notre monsieur cinéma sur la croisette. Je vous cache pas que la musique fait danser en studio. Rendez-vous demain, Laurent, pour le clap de fin. Dans un instant sur Inter, le bien-être dans vos oreilles. Ali Rebéi vous propose de réécouter un des meilleurs épisodes de Grand Bien vous fasse.